Elle est le fruit d'un métissage entre une mère congolaise et un père néerlando-congolais. Elle voit le jour à Kinshasa et aujourd'hui, mariée, maman de 4 enfants, Elodie Ngalaka est une heureuse grand-mère. Elle a fait ses études en philologie romane et en linguistique en Belgique. Depuis 2020, elle est membre cofondatrice du collectif Bokutani, au sein duquel elle tient la fonction de directrice du prix littéraire Émilie-Flore Fignon. Elle est déclameuse et compositrice de textes poétiques. Quelques événements à travers la Belgique ont déjà eu l'occasion de profiter de ses déclamations magistrales. Avant de pouvoir accueillir Elodie Ngalaka dans notre émission Mikanda de ce jour, voici ce qu'elle dit elle-même de sa plume. « Mes mots remettent en place mes émotions, celles-ci définissent par l'écrit mon moi passé et présent, tout en laissant plusieurs ouvertures au futur. Je suis une Belgicaine à l'âme poétique, femme de conviction et de contradiction. Je ne le regrette pas. »
Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté.
Bonjour Elodie, merci d'avoir accepté de nous partager votre littérature et votre vie de femme de lettres à travers cette émission Mikanda, qui est une émission littéraire audio diffusée, qui est le fruit d'une production grâce au partenariat de Radio Mbote et du collectif de promotion de littérature congolaise Bokutani. Et un grand merci à Jean-Jacques Ben de Radio Mbote qui a si magistralement présenté notre invité.
Je confirme.
Alors Elodie, nous venons d'écouter une brève présentation de toi. Nous aimerions donc en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait que la passionnée de littérature que tu es depuis ton adolescence et qui écrit depuis ton adolescence ne puisse publier ses textes qu'en étant déjà grand-mère?
Bonjour Martine. Bonjour. Voilà, donc nous sommes collègues et amis. Donc absolument. Je remercie aussi beaucoup Tani et Radio Mbote via Jean-Jacques Ben de me recevoir ici en tant qu'autrice de poésie.
Tout l'honneur est pour nous.
Merci beaucoup, merci Martine. Alors, c'est vrai que j'ai atteint un bel âge maintenant, et c'est seulement donc à l'âge de 60 ans que j'ai fait publier mon recueil de poésie. Mmh. Et j'écris depuis... Je n'arrive même pas à donner d'âge parce que j'écris depuis que je suis toute petite. Je ne vais pas dire que j'ai écrit depuis l'âge de 7 ans où j'ai appris à écrire, mais au début de l'adolescence, je crois vers 8-9 ans, j'ai commencé à écrire, mais j'écrivais pour moi-même, donc comme une sorte de journal intime. Donc quand j'avais quelque chose à dire, je l'écrivais sur un papier. Donc c'est une habitude que j'avais, je crois, parce que j'étais... Je faisais partie de ces enfants que les parents au pays avaient envoyé en Europe pour étudier.
D'accord.
Donc je suis venue très très jeune en Belgique, j'avais 2 ans et demi, avec des retours au pays pour les vacances. Mais donc j'ai beaucoup vécu sans mes parents. Nous sommes une grande famille, j'ai de nombreux frères et sœurs, mais on était avec les uns ou les autres, donc c'était difficile pour moi de me confier à mes frères ou à mes sœurs. Donc quand il m'arrivait quelque chose, j'écrivais sur un petit bout de papier. Et petit à petit, c'est comme ça que m'est venue cette passion d'écrire, parce que j'ai joint la lecture. Mmh. J'ai commencé à beaucoup lire. Parfois à l'internat, je ne dormais pas de la nuit. Je lisais toute la nuit à la lumière des réverbères dans ma chambre. Et bon, j'allais en classe très fatiguée, mais heureuse. et voilà, tout ce qui m'arrivait, j'écrivais ça sur des petits papiers. Malheureusement, bon, je ne les ai pas tous récupérés. Sinon, je crois que je pourrais faire plusieurs
temps,
livres.
Ça s'est envolé.
Je pourrais publier plusieurs livres. Et petit à petit, en grandissant, ben, on va à l'école, on apprend. J'aimais beaucoup le français, je voulais devenir professeure de français. Donc, et la 5e secondaire, qui était l'année de la poésie, donc, où j'ai appris beaucoup, beaucoup donc, sur la poésie, sur les poètes de tout pays. Donc ça m'a vraiment passionnée. Et je crois que c'est vers cet âge-là que disons que mon écriture s'est un peu plus affinée. Donc c'est un petit peu, je dirais, amélioré, bien que je crois que je peux dire que j'ai une écriture que je considère comme assez simple, près du cœur. J'écris comme je parle, comme je le pense, mais quand même, il faut quand même, quand on écrit...
Une certaine discipline.
Une certaine recherche. Donc parfois, il y a un premier jet, et puis après, on relit, et on se dit, ah tiens, je changerais peut-être ceci, cela, pour trouver ça meilleur. Mais j'écrivais pour moi-même.
D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait la différence alors, tout récemment, pour que ce qui était justement intime, qui faisait partie de toi, que tu puisses accepter de le partager avec le public?
Ben, petit à petit, en prenant un peu d'âge, je me suis posé parfois la question, parce que j'ai commencé à rassembler quelques textes, quelques poésies que j'avais, d'après des thèmes et tout, et je me disais, ah tiens, est-ce que je publierai pas un jour? Mais je ne le sentais pas. C'était vraiment... je ne me voyais pas confier tout ce moi à d'autres personnes. Et quand je dis ça passait comme ça, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Oui, quand même.
Bon, mais bon, à l'époque, donc à mes 17 ans, j'ai connu mon mari. Donc quand il me voyait écrire, lui il me disait toujours, mais faudra que tu publies un jour et tout ça. Et moi, je lui disais, oui, je publierai un jour. Mais en fait, c'était pour lui dire, bon, laisse-moi tranquille. Ça ne te regarde pas.
Ah oui, donc c'était vraiment ton moi secret.
Oui, voilà, c'était mon moi secret et je ne voulais pas qu'il y entre non plus. Donc, je lui disais toujours oui, mais je n'étais pas prête. Et petit à petit, je me suis dit, bon, un jour, je le ferai. Mais c'est toujours un jour, je le ferai. Et je crois que c'est quand, je peux dire, j'ai eu une deuxième vie qui a eu lieu, disons... Bon, dans la vie, on a des bonheurs, on a des malheurs. Et parfois, quand les malheurs deviennent un peu trop gros, ouais. Voilà, plus grands, on a besoin de plus de soutien, Et petit à petit, je me suis dit, mais bon, si je confiais un petit peu ce moi-là à d'autres, ils pourraient aussi me soutenir. Donc, c'est comme ça que l'idée de publier a commencé à me trotter dans la tête. Et je peux dire que c'est après avoir lu le livre C'est où on va papa, donc de Tournier, bon je l'ai écrit dans mon recueil mais là le nom m'échappe, mais son titre c'est Où on va papa, donc un monsieur qui raconte quelques pans de sa vie avec ses deux enfants fortement en situation de handicap. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai été beaucoup touchée. Et moi-même qui m'occupais de deux enfants, donc mon fils et mon petit-fils qui sont aussi en situation de handicap, là, je me suis dit, mais tiens, au fond, il y a des choses que je vis avec eux et que eux, ils ne peuvent pas partager aux autres. Pourquoi est-ce que je n'écrirais pas pour expliquer ce que je vis avec eux? Comme ça, les gens pourraient aussi comprendre ce qu'eux, ils vivent. Donc, l'idée m'est venue. Et d'accord. Tout en lisant ce livre-là, j'ai commencé à lire le livre et à écrire en parallèle de temps en temps. Mais quand je parle comme ça, mais c'est des petits pans de vie. J'ai écrit en 2009, j'ai écrit en 2010. Donc chaque année, j'écrivais des petites choses. Donc c'était le livre, je m'adressais à mon fils Florian et je m'adressais à mon petit-fils Elias. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça en pensant vraiment à la publication.
À la publication, d'accord.
Et puis quand je me suis dit, oui, mais moi j'écris beaucoup de poésie et tout, et là je veux quand même écrire un récit, est-ce que je suis compétente pour écrire un récit? Parce que la poésie, je ne choisis pas les mots. En fait, l'inspiration me vient et j'écris. D'accord. Donc j'écris et hop, sur le papier, c'est tout là et j'écris. Mais tandis que là, c'est des petites choses qui sont arrivées dans la vie et tout ça, et alors, j'ai commencé à aller dans des ateliers d'écriture.
D'accord, voilà. Parce que je me demandais justement, parce que tu dis que c'est l'histoire de ta vie, quelque part aussi, oui. qui t'a conduite à publier, mais alors pourquoi une poésie et non pas une prose? Parce que on n'imagine pas raconter sa vie en poésie, on écrit généralement ce que l'on vit. Qu'est-ce qui a fait finalement de choisir ce genre littéraire?
Oui, et donc ce livre-là, donc, mmh. Qui est en prose, que j'ai commencé à écrire petit à petit, je me disais, je vais le faire publier, mais il faut que, d'abord que j'améliore ma prose. Il faut que j'améliore ma prose, donc j'ai été à des ateliers d'écriture. Et puis, quand j'ai trouvé que j'avais dit tout ce que je devais dire, c'était vers 2017, donc c'était quand même déjà un peu tard, mais c'était vers 2017, je me disais, bon, voilà, je le termine. Je l'ai proposé à la relecture. Je l'ai proposé à la relecture chez Cléa, qui est une compagnie spécialisée. Et ils m'ont fait un retour assez long. Et j'ai lu ce retour. J'étais d'accord avec certaines choses à améliorer, pas d'accord avec d'autres. Mais les choses là où j'étais d'accord, donc je me disais, ah oui, ils ont raison, là, là, là et là. Il faut que je fasse telle ou telle correction. Mais je n'y arrivais pas. Donc là, j'avais déjà tout donné, donc j'ai mis ça de côté.
Tu avais l'impression de dénaturer un peu ton texte?
Peut-être au fond de moi, mais je ne me le disais pas. Donc je me disais seulement, bon, quand je serai prête à faire une relecture et mes corrections, mm-hmm. ben, je le ferai. Je remettais chaque fois au lendemain. Donc, mais je suis une déesse de la procrastination. Hein, donc,
Comme beaucoup d'entre nous, je confirme.
Donc je me disais toujours, je vais remettre au lendemain, je vais faire ça demain. Et petit à petit, je me suis rendu compte que demain n'arrivait pas. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je ne vais jamais publier. Et alors là, je me suis fait violence. Je me suis dit, oui, mais bon, tu as plein de poésie dans tes tiroirs, tu as plein de textes, j'ai des centaines et des centaines de textes, parce que tout en écrivant cette prose, je continuais à écrire mes textes. Et le déclic, ça a été donc au confinement. Donc on sait bien que toute la Belgique, toute la terre entière s'est mise à écrire.
C'est découvert des talents.
C'est découvert des talents. Lors de la pandémie, bon, malheureusement, bon, il y a eu des malheurs, mais bon, il y a eu aussi quelques bonheurs. Et pendant la pandémie, donc, j'ai pu me poser les vraies questions, de me dire, bon, pourquoi est-ce que je ne publie pas? Est-ce que j'ai peur de publier? Puis je me suis dit, non, je ne publie pas parce que je me suis dit, je vais publier cette prose et pour le moment, je n'y arrive pas. Mais publié, j'ai d'autres textes. Mm-hmm. Donc voilà. Donc j'ai été prendre une partie de mes textes et j'ai commencé à classer, à regarder ce que je voulais publier maintenant ou pas. À savoir que j'ai d'anciens textes beaucoup plus vieux que j'aurais pu publier tout de suite. Parce que j'avais déjà fait un classement de certains de mes textes. Mm-hmm. Mais j'avoue que ces premiers recueils, j'ai mis tous mes textes en recueil et mes premiers recueils étaient vraiment très intimes et parlaient de mes moments vraiment d'émotion lors de certains malheurs familiaux, etc. Donc je ne me suis pas sentie à les publier. Je ne me sentais pas encore prête.
Il y avait encore une pudeur.
Il y avait encore une certaine pudeur et puis peut-être aussi une certaine peur aussi de me présenter au public directement avec ce côté noir, avec ce côté, cette faille, comme si peut-être il n'y avait que du noir en moi, alors que les gens me connaissent comme quelqu'un de toujours souriant.
Tout à fait, absolument,
je crois qu'au fond de moi, il y avait cette peur de me dire, mais si tu publies ce texte, ce recueil-là, les gens vont se dire, oulala.
On va découvrir une autre Élodie.
Voilà, une autre Élodie. Je crois que ça m'a peut-être fait un petit peu peur et j'ai mis un petit peu de côté. Je me suis dit, non, je vais plutôt rassembler un petit peu de tout et par thème. Et petit à petit, c'est comme ça qu'est né mon recueil.
Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on a ce magnifique recueil de poésie.
Merci.
Et dans ce chemin de publication, est-ce que ça a été difficile de trouver un éditeur qui accepte de te publier?
Ah oui, ça c'est le chemin de croix.
Ah.
Oui, ça c'est un chemin de croix. Je crois que tous ceux qui ont essayé la publication, sauf quelques chanceux, parce que voilà, ceux qui sont pris tout de suite, ce sont vraiment des chanceux, mais tout le monde sait que Harry Potter, je crois qu'elle a fait 9 ou 10 maisons d'édition avant qu'on accepte
tout.
Et c'est vraiment un chemin de croix, je crois, pour la plupart des personnes.
En tout cas, aujourd'hui, on a ce recueil de poésie. Si j'ai bien compté, il y a 69 poèmes.
C'est possible, je n'ai plus.
Oui, je crois. Ah, 69 oui. poèmes répartis en 7 chapitres.
Ah bah,
félicitations,
ah bah, merci.
Qui est une grande production et de grande qualité, je confirme.
Bien, au départ, je vous avoue qu'il y en avait 175.
Ah oui, donc il y a encore. Il y a encore, on peut attendre encore d'autres.
Quand
d'autres
j'ai fait
sorties.
Le premier choix, je me disais non, ça doit être dedans, ça doit être dedans, ça doit aussi être dedans. Je me suis retrouvée avec 175 ou 175 textes pour les Français de Paris.
Ah ben voilà, donc aujourd'hui en tout cas, moi je vois.
J'ai dû décrasser un peu, ça n'a pas été facile.
Eh ben, on espère voir la suite parce que ce qu'il y a là déjà, c'est très très intéressant.
Merci.
Et le recueil donc, dont nous parlons, le titre c'est Ngalaka, la Belgicaine. N'est pas une poésie tranquille. Il est appelé recueil de spoken word, prose poétique et kassala contemporain. Et qu'est-ce qu'un spoken word ?
Alors le spoken word, j'avoue qu'il y a quelques années, je ne connaissais pas ce terme.
Je ne connais toujours pas.
Je ne connaissais pas ce terme. Et quand j'ai commencé à penser à la publication, donc pendant la pandémie, beaucoup de mes textes me viennent d'abord en musique.
D'accord.
Dans ma tête.
Ah, c'est particulier.
Voilà.
Comme inspiration.
Voilà. Et d'ailleurs, parfois, je suis, maintenant qu'on a les smartphones et tout ça, et avant même avec une petite enregistreuse, là, à l'époque, quand je me baladais, hop, il y avait des petits textes en musique qui me venaient, et à l'époque, hop, je m'enregistrais.
Je m'enregistrais,
et puis j'écrivais les textes. Mais bon, je ne suis pas musicienne, donc je ne sais pas mettre tout ça en musique. Et j'ai continué par après, de temps en temps, avec donc mon smartphone. Mais donc, les textes me venaient en musique, et puis j'écrivais vite, quelque part, sur du papier, dans les mémos, soit sur papier ou dans mon GSM, et tout ça. Et après, je devais toujours les citer à haute voix. Donc, pour moi, tous mes textes, en fait, sont des textes que je déclame déjà pour moi-même.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire la déclamation. J'ai toujours aimé la déclamation. J'en avais fait un tout petit peu en extrascolaire, quand j'étais en secondaire, déclamation, éloquence.
Donc, c'est une passion qui vient vraiment de loin.
Un peu de théâtre. J'aimais beaucoup Molière. Ah, mon Dieu, fille.
Justement, à ce propos, Élodie, est-ce que tu fais la différence entre Élodie écrivaine, Élodie cassaleuse ou Élodie poétesse ?
Ben, disons que toutes ces Élodies-là font partie de moi. Mais quand j'écris un cassala, je n'écris pas une poésie. Pourtant, le kassala est quand même un texte poétique. Mais il y a une différence. Quand je déclame, je peux déclamer une de mes poésies, mais quand je déclame, ça devient en fait du spoken word. D'accord. Donc, c'est ça que je commence à expliquer. Donc, pour le spoken word, donc c'est vraiment le texte qui doit être dit. Donc, le texte, il est dit, il est déclamé. Il est quasi chanté. Quand je lis Baudelaire, ce n'est pas du spoken word. D'ailleurs, Baudelaire, je le lis en silence. Il entre dans ma tête, dans mon esprit. Donc, toutes les poésies que je lis, les poésies classiques, donc je les lis en silence.
Parlant.
J'aime beaucoup le kassala contemporain, mais pour que ce soit écrire un kassala, il y a certaines, entre guillemets, règles. Mais les règles... Comme le dit le professeur Kabuta, qui est le maître du kassala, les règles peuvent être dépassées et oubliées.
D'accord, il n'y a rien de figé.
Non, il n'y a rien qui est figé, mais le kassala, il y a l'emphase, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce serait toute une émission pour expliquer le kassala contemporain. Mais, et quand je déclame, par exemple, mes propres textes, quand je vais déclamer, je vais peut-être répéter certains mots. Je vais répéter certains mots, je pourrais même ajouter un ou deux mots, ou changer même l'ordre des phrases. Parce que quand on déclame, le texte, il devient autre.
C'est spontané.
Oui, voilà. Donc, voilà.
Ah ben, merci en tout cas de nous faire découvrir cette passion. On sent que ça vient du cœur et on est tout de suite habité par la passion telle que tu la vis, telle que tu l'exprimes.
Merci.
Et ça fait maintenant 4 mois, du coup, que ce recueil est publié. Est-ce que tu as eu un retour déjà de tes lecteurs ? Est-ce qu'il y a un poème en particulier qui est le plus... ressorti des échos que tu as eus de ton lectorat ?
Bah, disons que le premier texte, Ma fille chante, Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était vraiment... Ils ont commencé à lire et ils ont dit vraiment que pour le moment, c'était vraiment un des textes qui les a vraiment beaucoup touchés. Donc ça m'a fait chaud au cœur.
Ah, c'est magnifique, c'est très beau, c'est voilà. Le texte vraiment qui commence.
Oui, oui, et c'est un texte très personnel en plus, donc ça m'a vraiment fait très chaud au cœur.
Ah ben, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission.
Déjà, c'est pas possible.
Vraiment, je sens moi-même que voilà, on boit tes paroles, Élodie, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a, dans ces 69 poèmes qu'il y a dans le recueil, est-ce qu'il y a un en particulier qui s'attache particulièrement à l'une de tes cultures qui est prédominante?
Il y en a 3 ou 4 qui ressortent et que j'ai mis spécifiquement dans mon recueil pour symboliser mes différentes cultures. Alors, je précise que je n'ai pas la nationalité belge. Donc, je corrige un petit peu le début. Voilà. Je suis de nationalité néerlandaise. Oui. Voilà. Je commence mon recueil avec plusieurs textes sur Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est ma ville natale, c'est mon pays. Je suis à Kinshasa, je suis chez moi. Et voilà, donc ça devait vraiment ressortir. Mais je suis en Belgique depuis que je suis toute petite. Donc la Belgique, c'est mon pays d'adoption, c'est mon pays de cœur. J'aime beaucoup la Belgique. Et c'est pour ça que dans mon recueil, j'ai mis... en fait, ce texte m'est venu un jour et il fallait qu'il soit dans mon recueil, c'est Belgique, mon ami. Donc dans Belgique, mon ami, j'exprime mon amour pour la Belgique, mon pays d'adoption. Alors, il y a d'autres textes que je voulais absolument mettre donc, dans mon recueil. C'est la femme, c'est 3 textes, 3 poèmes sur la femme kabindaise. Parce que ma grand-mère était kabindaise, Kabinda, donc qui est sous colonie angolaise. Et mon père a beaucoup milité pour la libération du Kabinda, donc jusqu'à sa mort. Et le dernier, c'est le Kassala pour mon époux. Voilà, parce que le Kassala, c'est Luba, et mon époux est Luba. Et voilà, je voulais...
Ça, c'est encore une partie de toi qui est importante, parce que même dans les dédicaces, on le ressent vraiment.
Je ne suis pas...
Cette relation de couple qui est importante et qui est inspirante.
Je suis une Mouluba d'adoption. Il fallait que je le mette dans le texte aussi.
En tout cas, merci Élodie. Pour ceux qui voudront, on ne va pas en dire davantage, vous allez pouvoir découvrir tous ces textes dans ce magnifique recueil de poèmes qui est publié aux éditions du Net. Et donc vous pouvez trouver facilement sur internet, sur la page Facebook de Élodie Ngalaka, sa page Facebook, mais aussi sur la page de Bokoutani, le groupe Facebook de Bokoutani. Vous pouvez découvrir ce poème et comment vous le procurer. Voilà, nous arrivons donc à la fin, Élodie. Il est de coutume dans cette émission, je vais t'inviter. On a un panel de livres intéressants. On a un panel de livres ici. Alors, je voudrais voir, Élodie, s'il y en a un, comme nous faisons toujours, s'il y en a un que tu n'as pas encore lu, que tu voudrais choisir et lire, ou alors, je rappelle que ce sont des écrivains congolais, ou alors s'il y en a peut-être un en particulier qui t'a marqué, que tu voudrais faire découvrir.
Donc, je montre ce livre-ci de Nadia Nsai, « Docteur van de décolonisatie ». Et je le montre, je ne l'ai pas encore lu. Je signale que je l'ai acheté l'année passée ou un peu plus, je ne sais plus. Donc, il est même dédicacé. Ah. Je remercie Nadia Nsai. Elle me l'a envoyé dédicacé. Merci beaucoup. Et c'est un livre je crois que c'est le prochain livre que je vais lire. Et je le présente parce qu'il est écrit en néerlandais.
En néerlandais, oui.
Et c'est pour
montrer... tu es hollandaise.
Voilà, je suis hollandaise. Et c'est pour dire aussi que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Africains qui parlent le néerlandais. Et voilà. Et pour ces Africains-là, eh bien, je vous le montre. Allez vous procurer ce livre de Nadia Nsai. Et en plus, il parle du Congo.
Du Congo, oui.
Donc, je sais que ça va être très intéressant.
Tout à fait. Et pour donc, améliorer notre néerlandais pour ceux qui vivent en Belgique.
Voilà. Donc, moi, j'ai hâte de lire ce livre de Nadia Nsai. Donc, ça sera le prochain que je vais commencer. Je suis en train d'en terminer un. Et c'est le prochain que je vais commencer.
Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Alors, la toute dernière demande que je vais te faire, comme il est de coutume, encore dans cette émission, c'est que est-ce que tu pourrais clôturer l'émission en t'exprimant dans une des langues congolaises, donc cette partie de toi.
Matondo Martine, Matondo Radio Mbote, Nasepelimingi kozalana émission Oyo, Mikanda, Nalingi koyebisa bato nyoso na Congo. Nazokoma na Congo. Boze langai. Nazokoma na ngalaka la belgicaine. Donc boze langai kuna. Nazoya kalamingite na kozala na Congo. Voilà,
merci beaucoup Élodie. Vous avez compris, ceux qui auront compris, donc encore on saisit le message. Et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Bokutani avec Radio Mbote, Mikanda. Merci beaucoup.